Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons aujourd'hui commencer un nouveau traité, le traité sur la force, donc une troisième vertu théologale, pardon, une vertu cardinale. Donc je rappelle que tout notre édifice spirituel est fondé sur sept vertus essentielles, trois vertus théologales tournées directement vers Dieu, la foi, l'espérance et la charité. La foi pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la voix du bon Dieu. Et après ces trois vertus théologales qui peuvent augmenter sans cesse en nous, il y a quatre vertus cardinales qui se situent pour chacune d'entre elles comme un juste milieu entre deux excès. Donc il est possible pour ces quatre vertus cardinales d'en avoir trop ou pas assez. Donc il y a la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc nous commençons aujourd'hui la vertu de force. Avant de commencer ce cours, je voudrais vous rappeler que je prêcherai, si Dieu veut, au moins pendant l'année 2019, dans six retraites, ici dans le Tarn, la frontière entre le Tarn et l'Aveyron, en fait, au nord d'Albi. Je suis déjà plein pour les retraites de la Semaine Sainte, donc du 15 avril au 21 avril, également pour celle de l'Ascension, du 27 mai au 1er juin. Ce sont des petites retraites, je ne peux pas prendre plus de 6 ou 7 personnes par retraite. Donc j'ai encore de la place pour les retraites de février, la retraite de février, 18 février au 23, la retraite du mois de mars, du 18 mars au 23 mars, la retraite de septembre, du 23 au 28, et la retraite d'octobre, du 14 au 19. Donc j'espère que un certain nombre d'entre vous vont être intéressés par ces retraites, les exercices de Saint-Ignace, qui n'ont pas leur pareil pour redonner une foi très forte, une charité vive à tous ceux qui les suivent. Donc, essayez de vous inscrire le plus vite possible pour que je puisse m'organiser. Donc, revenons à nos moutons spirituels, la vertu de force. Donc, Saint Thomas d'Aquin va suivre toujours le même plan. Donc, il va parler d'abord de la vertu même de force. Donc, j'explique d'abord, j'ai oublié de vous dire que le traité sur la force contient par des questions 123 jusqu'à la question 140 de la Secunda Secundae. Donc, Saint Thomas va parler d'abord de la vertu de force, ensuite de ses différentes parties, puis des dons, du don qui correspond au don de force, et enfin des préceptes qui concernent la vertu de force. Donc après il redivise, on sent qu'il a un plan très très bien fait dans son intelligence. Il va parler d'abord de la vertu même de force, de son acte principal, des vices qui lui sont posés, la crainte et l'audace, et va embrasser Ces vices ont embrassé 5 questions. Les parties de la force sont au nombre de cartes, 4, c'est-à-dire la magnanimité qui nous donne l'occasion de traiter de la présomption, de l'ambition, de la vaine gloire, de la pusillanimité, des vices qui lui sont opposés. Ensuite la magnificence, puis la patience et enfin la persévérance. Et saint Thomas finit son traité par l'examen du don de force et des préceptes de la force. Donc, question 123-140. Nous allons commencer aujourd'hui par la question 123, question d'introduction au traité sur la nature de la force. Premier article de cette question 123 de la Seconda Secondae, il se pose la question de savoir si la force est une vertu. Je rappelle ce qu'est une vertu, la définition traditionnelle, habitus operativus bonus, l'habitude d'une d'œuvrer dans le bien, si vous voulez. Donc les vertus, dit saint Thomas, sont des qualités qui confèrent la bonté à l'homme et à ses actions. Une qualité donc qui va rendre bon une action faite par l'homme. Une action faite par l'homme. Donc pour produire cet effet de bonté, la vertu doit d'abord rectifier la raison humaine. Et c'est le propre des vertus intellectuelles. Ensuite, elle doit porter cette rectitude de la raison dans les choses humaines, c'est-à-dire appliquer la raison dans le cas pratique des choses humaines, ce qui est l'œuvre de la justice, et enfin détruire deux sortes d'obstacles qui, dans la vie pratique, s'élèvent contre la raison, c'est-à-dire l'attrait des plaisirs mauvais, auxquels la tempérance doit résister, ça c'est la lutte contre les trois concupiscences, et puis certaines difficultés qu'il faut vaincre avec courage, et vis-à-vis desquelles la force de l'âme est aussi nécessaire pour en triompher que la force du corps pour repousser, surmonter les obstacles matériels. Donc, la vertu de force, si vous voulez, est une vertu combative qui va nous aider à placer sous le contrôle de la raison tout ce que nous faisons. Donc, en conclusion de cet article, saint Thomas a une belle phrase, il dit « La vertu de force va donc maintenir l'homme dans la conformité à la raison. » Et pour un catholique, maintenir l'homme dans la conformité à la raison, raison éclairée par la foi. C'est évident qu'au-dessus des vertus, il y a la foi catholique qui va agir, bien qu'il puisse y avoir des vertus naturelles. Cependant, au-dessus, la lumière de la foi, la lumière de la foi va éclairer la lumière de la raison. Alors, il y a une petite note intéressante dans cet article 1. Plusieurs, dit-il, accomplissent des actes de force sans avoir la vertu de la force elle-même. Par exemple, il y a des gens qui bravent un danger par ignorance du péril, d'autres par une grande confiance dans leur habileté, d'autres par une forte passion, d'autres par le désir d'un bien terrestre, d'autres encore par la crainte d'un dommage temporel, d'autres par point d'honneur ou par amour du plaisir, et d'autres par crainte d'une affliction. Donc la vertu même de la force exige que l'on agisse pour une bonne fin. Donc c'est la fin qui va déterminer la bonté d'un acte. Si vous faites quelque chose pour une chose qui en soit bonne, pour une fin qui est mauvaise, pour une intention avec une intention mauvaise dans l'esprit, il est évident que dans ce cas-là, ce n'est pas un acte de vertu. Et si vous faites même quelque chose de mauvais, mais de bonne foi, sans savoir que cette chose est mauvaise, mais vous le faites pour une fin bonne, bien dans ce cas-là, il peut y avoir au moins matériellement un acte de vertu, dans le sens que vous ignorez totalement que ce que vous faites est interdit par la loi du bon Dieu. Donc là, résumons, la vertu de force est donc un moyen de conformer à la raison toutes nos actions. C'est-à-dire la vertu de force va nous aider à passer au crible nos actions pour qu'elles soient conformes à la raison. Deuxième article, la force est-elle une vertu spéciale? Évidemment, la réponse est positive. Parce qu'elle consiste à braver les grands dangers avec fermeté et à supporter les maux de la vie avec courage. Donc on voit ici déjà apparaître deux mots importants dans ce que dit saint Thomas. Supporter avec fermeté et braver les grands dangers. Donc dans cet usage de la vertu de force, Saint Thomas expliquera cela plus directement après. Dans l'usage de la vertu de force, il y a deux choses. Il va falloir évidemment se battre contre les dangers et supporter les maux de la vie avec courage. Donc, la bataille contre les grands dangers, c'est ce qu'on appelle l'agrédie. C'est un mot qu'on ne traduit pas en général dans les livres de théologie. L'agrédie, c'est la partie agressive de la force. Et la deuxième fonction de la vertu de force, c'est de soutenere, c'est-à-dire soutenir le combat. Le plus difficile n'est pas la partie active, forte, de combat même, mais de soutenir le combat. Prenons un exemple pour vous expliquer. Imaginez qu'une armée cherche à prendre une citadelle qui est occupée par l'ennemi, donc il y a un combat dantesque, un combat héroïque, et puis l'armée finit, après bien des vicissitudes, à prendre d'assaut la citadelle et prendre la citadelle elle-même. Elle s'installe dans les murs de la citadelle après avoir fait fuir l'ennemi. Ça, c'est la partie qu'on appelle l'agrédie, donc la partie agressive. Mais une fois que vous avez pris la citadelle, il ne s'agit pas de dire à vos soldats en tant que général, écoutez, voilà, soyez, on a pris la citadelle, maintenant un mois de vacances pour tout le monde et tout le monde peut faire la sieste. Non, il s'agit de la garder, cette citadelle. Parce que l'ennemi qui a été expulsé de la citadelle va vouloir se regrouper et réattaquer pour récupérer son bien qu'il a perdu. Et le plus difficile n'est pas la partie agressive, mais la partie de soutien. Le soutenir est bien plus compliqué. Et ça explique très bien pourquoi dans les milieux, surtout dans les milieux sédévacantistes, moi je le vois un peu tous les jours, dans les milieux sédévacantistes, le plus difficile c'est la persévérance. Faire un grand feu parce qu'il fait froid, tout le monde s'y met, parce que les gens ont froid, donc ils font un grand feu. Et ensuite, ils commencent à se mettre autour du feu en chantant et en mangeant tranquillement. Il fait bon, parce que le feu réchauffe. Puis au bout de quelques heures, le bois est presque consumé. Alors, le chef dit, bon, mais maintenant, il faut aller chercher du bois. On va repartir dans la forêt, dans le froid de la forêt. Il faut ramener du bois, parce que sinon, le feu va s'éteindre. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne. Ah non, moi je suis déjà allé chercher du bois pour faire le feu, maintenant j'y retourne pas, le feu s'éteint. Et donc, le problème de nos fidèles, c'est pas trop la partie de combat, mais la partie de soutien dans le combat. Soutenir. Par exemple, prenons un exemple un peu intellectuel, mais qui va vous aider à comprendre, je l'espère, ce qui se passe actuellement dans l'Église, cette existence de deux églises, malheureusement, l'Église de Vatican II, et l'Église du monde, et l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique. Je vois beaucoup de gens qui, avec la grâce du bon Dieu, compris ce qui se passe, donc ils ont compris qu'il y avait effectivement deux églises, le Dieu du monde contre le véritable Dieu, donc la société de liberté, égalité, fraternité contre la société religieuse de pauvreté, chasteté, obéissance, ils ont compris tout ça, ils ont compris intellectuellement le danger de Vatican II, ils ont compris le danger de la liberté religieuse, de l'écuménisme, de la collégialité, très bien. Tout ça, ils ont compris. Et donc, ils sont devenus très forts dans la lutte, avec beaucoup d'études, ce qui est bon. Mais au bout d'un certain nombre d'années, 10, 20, 30 ans, il ne faut pas oublier que maintenant, ça fait 60 ans que ça dure, hein, la mort du pape Pie XII, c'était il y a 60 ans, en 1958, nous sommes en 2018, donc 60 ans de lutte. Au bout d'un certain nombre d'années, on voit ces gens qui étaient extrêmement fermes sur le plan de la doctrine commencer à se décourager. Et maintenant, pratiquement, j'ai vu certaines personnes qui, sans aucun scrupule de conscience, vont commencer maintenant par abandonner la messe Nounakoum, revenir vers des messes traditionnelles, mais Unakoum, dans le cadre de la fraternité sacerdotale Saint-Bénis, par exemple, sans aucun problème de conscience, et ils se disent, vous comprenez, monsieur l'abbé, ça fait quand même un peu longtemps que les choses durent. Alors, on peut quand même pas considérer que ça va durer comme ça pendant longtemps, trop longtemps, alors, c'est pas possible que le bon Dieu nous ait abandonnés pendant si longtemps, donc, eh bien, continuons, arrêtons le combat. Et j'ai vu des gens qui étaient extrêmement fermes, encore une fois, dans la doctrine, qui sont devenus maintenant des libéraux finis. Pourquoi ? Parce que, justement, ils n'ont pas assez travaillé le soustinéré. Lorsque le bon Dieu a envoyé Sainte Jeanne d'Arc pour sauver la France, en 1431, donc au XVe siècle, C'était la fin de la guerre de 100 ans, c'est pas au début. D'accord ? Eh bien, c'est la même chose pour nous. Les gens souvent me demandent, mais monsieur l'abbé, combien de temps cette crise terrible va-t-elle durer ? Cette crise des intelligences, cette crise morale, cette crise de la foi, combien de temps va-t-elle durer ? Et je réponds toujours la même chose, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire du bon Dieu. Le bon Dieu seul peut répondre à cette question, pas moi. Si le bon Dieu permet que ça dure pendant 2 ou 3 siècles, eh bien ça durera pendant 2 ou 3 siècles, et Dieu vous donnera et me donnera les grâces pour tenir le coup, pas simplement avec l'agrédit, mais aussi avec le sustinéré pendant 2 ou 3 siècles. Donc cette phrase, qui n'est en fait pas une phrase de Saint Thomas, une phrase de Cicéron, qui explique donc qu'il faut braver les grands dangers avec fermeté et supporter les maux de la vie avec courage, une phrase qui explique justement le rôle de la vertu de force. Et pour cela, la vertu de force est une vertu spéciale. Par le mot force, dit Saint Thomas, on peut entendre donc la fermeté particulière qui nous fait supporter ou repousser ce qu'il y a de plus difficile. C'est un cas de l'irascible. Les grands périls, on doit admettre que la force est une vertu particulière qui, comme l'ancienne Cicéron, consiste à braver les grands dangers avec fermeté, à supporter les maux de la vie avec courage. Ainsi comprise, la force n'est pas sa matière déterminée, une vertu spéciale. Alors, troisième article, la force modère-t-elle la crainte et l'audace ? Je vous ai déjà expliqué, c'est la théologie catholique, que les vertus cardinales sont des vertus qui se placent entre deux excès. On peut avoir trop d'une vertu cardinale ou pas assez de cette même vertu cardinale. C'est pour cela qu'il y a une vertu au-dessus, qui est aussi une vertu cardinale, mais qui va aider à équilibrer justement l'usage de cette vertu cardinale. C'est la vertu de prudence. La vertu de prudence, connectée au don de conseil, donc vont travailler, si vous voulez, pour nous aider à pratiquer la vertu cardinale, de, par exemple de force, de tempérance, de justice, mais pas plus que, autant que. On peut avoir trop de force, et à ce moment-là, on tombe dans l'audace, ou pas assez de force, manquer de force, et à ce moment-là, on tombe dans la crainte. D'où le titre de la question, de l'article de Saint Thomas d'Aquin de la question 123, « La force modère-t-elle la crainte et l'audace ?» Et donc la réponse est positive. La cause de la défaillance de la volonté, dit saint Thomas, en face des choses difficiles, n'est autre que la crainte qui, comme nous l'avons établi en parlant des passions, fuit les maux difficiles à surmonter. Ceci étant ainsi, la force est principalement nécessaire pour étouffer les craintes que les difficultés inspirent, et dont l'effet d'empêcher la volonté de suivre la raison. Donc la crainte va essayer de déconnecter la volonté de la raison. Il faut en plus, dit saint Thomas, non seulement opposer la fermeté aux choses difficiles en étouffant la crainte, mais encore les attaquer avec une audace modérée pour assurer la sécurité de l'avenir. Nous devons donc dire que la force modère la crainte et l'audace. Donc deux choses, et on retrouve la même idée qui va revenir constamment dans le traité de saint Thomas. S'opposer avec fermeté aux choses difficiles en étouffant la crainte, et en même temps assurer la sécurité de l'avenir. Le premier fait, le combat pour les choses difficiles, c'est l'agrédit et le soutien dans le temps du résultat de la victoire, c'est ce qu'on appelle le sustinere. Donc l'agrédit est plus facile à utiliser que le sustinere. Le sustinere est quelque chose de difficile. Donc il faut faire attention et bien nous maintenir dans l'humilité pour justement nous maintenir dans le sustinere. Article 4. La force a-t-elle pour objet propre les dangers de mort ? Et saint Thomas répond par l'affirmative. La force a pour objet propre les dangers de mort. Hein, parce que de tous les maux du corps, le plus terrible est sans contredit la mort, qui nous prive de tous les biens sensibles. Et donc la nature humaine a une défiance, je dirais, spontanée contre la mort, une attaque spontanée contre la mort. La mort, c'est ce qu'il y a de pire pour un homme. Article 5, donc je passe sur les parties secondaires pour m'arrêter davantage sur les articles plus importants. La vertu de force consiste-t-elle seulement à braver les dangers de mort à la guerre ? Eh bien, saint Thomas va expliquer que ce n'est pas simplement la guerre, mais d'autres actions qui peuvent être des résultats directs de la vertu de force. Euh, Par exemple, il va parler, il va avoir une question spéciale sur le sujet. C'est la question suivante, d'ailleurs, la question 124, du martyr. Bon. Le martyr, où l'on subit une lutte personnelle en vue du souverain bien qui est Dieu, est une force qui se place au premier rang et qui rentre dans celle que l'on déploie sur un champ de bataille. Les martyrs sont donc des guerriers pleins de force. Donc, la vertu de force ne consiste pas simplement à braver les dangers de mort à la guerre, mais aussi à se battre pour conserver la foi dans des persécutions terribles. C'est le cas du martyr. Article 6. L'acte premier de la force consiste-t-il à souffrir? Donc là, on reprend exactement la même idée directrice de tout le traité sur la force. La force consiste à supporter les maux et à demeurer ferme dans les dangers beaucoup plus qu'à attaquer. Je répète que supporter les maux et demeurer ferme dans les dangers dans le temps, dans la duration, c'est ce qu'on appelle le sustinere. Beaucoup plus que d'attaquer, qui correspond à l'agrédit. Donc, la force a pour objet de comprimer la crainte plutôt que de modérer l'audace. En fait, pour but, les deux choses, à la fois de comprimer la crainte plutôt que de modérer l'audace, mais la lutte contre la crainte est une lutte constante, si vous voulez, qui va correspondre au sustinere, le fait que je vais devoir constamment rester sur mes gardes pour ne pas perdre ce que j'ai acquis. Alors que l'audace va correspondre à une période beaucoup plus courte dans le temps, il va consister à se battre contre l'ennemi, mettre l'ennemi dehors. Une fois qu'il est dehors, il est dehors, à condition que je garde la surveillance des murs pour être sûr que l'ennemi ne revient pas. Nous verrons plus tard que ces deux notions dont parle saint Thomas, le sustinere et l'agrédit, ont des conséquences énormes dans la vie spirituelle. Il s'agit pour nous de conserver la foi. J'ai vu ça encore une fois très souvent, beaucoup trop souvent, même chez les convertis, de gens qui se découragent justement parce que ils veulent une victoire tout de suite, mais ils veulent pouvoir jouir des fruits de la victoire immédiatement après la victoire. Et c'est pas toujours possible. En général, c'est pas possible. Les fruits de la victoire spirituelle sur les démons, on les a en partie ici-bas, mais on les aura totalement au ciel et pas avant. Or, le ciel, c'est pas pour tout de suite, c'est pour après notre mort et après le temps de purgatoire. Pour ceux qui y iront. Article 7. Le fort agit-il pour le bien de sa propre habitude? Non. L'homme fort, dit saint Thomas, agit pour le bien de sa propre habitude dans le sens qu'il a pour fin prochaine de donner à son acte la ressemblance de sa vertu. Il n'en a pas moins pour fin dernière la suprême béatitude qui est Dieu lui-même. Donc la cause finale, si vous voulez, de l'usage de la vertu de force, c'est la béatitude suprême, Dieu lui-même. On se bat par la vertu de force, par l'agrédit, on soutient les résultats du combat par le sustinere, afin de pouvoir un jour aller au ciel et jouir de la vision béatifique pour toute l'éternité. Article 8. L'homme fort trouve-t-il son plaisir dans l'acte de la force? Et saint Thomas va utiliser un texte des Maccabées, prononcé par le saint vieillard Éléazar au cours de son martyre. « Je souffre dans mon corps de rudes douleurs, mais mon âme les accepte volontiers à cause de votre crainte. » Donc, l'acte de force va trouver son plaisir justement dans la compréhension que l'on fait la volonté du bon Dieu. Il donne un autre exemple. Un glorieux martyr qui s'appelait saint Tiburce, qui marchant pieds nus sur des charbons ardents, disait autour de lui, à ceux qui étaient autour de lui, qu'il lui semblait fouler un tapis de roses. Article 9. Je vais un petit peu vite dans tous ces articles. Vous verrez que le traité de la force et le traité de la tempérance sont des traités plus faciles à expliquer que le traité de la justice et le traité de la prudence. Donc je passerai moins de temps dans l'explication de ce traité de la force que dans le traité, par exemple, de la religion. La vertu de force, donc, se manifeste-t-elle surtout dans les périls soudains et imprévus? Voilà ce que répond saint Thomas en citant saint Grégoire. Les traits aperçus de loin sont moins dangereux et on supporte plus facilement les maux de ce monde avec la prévoyance pour bouclier. Donc, si je me protège avec le bouclier spirituel, je me protège des traits du malin, à ce moment-là, ces traits du malin que je vois arriver de loin, je sais qu'ils vont arriver, donc je me protège par avance contre l'arrivée de ces traits. Si je sais que ces traits arrivent, eh bien, je vais me protéger, et donc ces traits sont beaucoup moins dangereux que des épées ou des flèches qui vont arriver sans prévenir. Article 10. L'homme fort a-t-il recours à la colère dans son acte? En gros, ça veut dire, la colère est-elle toujours un péché? Bon, réponse, il y a une sainte colère. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, en rentrant dans le temple, constatant que les marchands du temple sont là, qui vendent tous les biens de sacrifice, qui font des échanges d'argent, etc., dans le temple, il prend un fouet de corde et chasse tout le monde. Il n'est pas les moins morts, il a renversé les tables des changeurs, donc il a fait un charivari incroyable dans le temple, en disant, vous avez fait d'une maison de prière une caverne de voleurs. C'est pas très gentil, mais c'est ce qu'il a dit. Et donc, c'est une sainte colère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut même aller plus loin en disant que dans certains cas, si je ne mets pas dans une sainte colère, eh bien, je manque à mon devoir d'État. Il y a des fois où un père de famille doit un peu monter le ton parce que le gamin de 6 ou 7 ans fait des grosses bêtises. Et si le père ne dit rien, il refuse de monter le ton et ne fait rien du tout pour rectifier la situation, il est coupable des conséquences de ces actions. Donc, saint Thomas répond en disant que la colère et les autres passions peuvent exister dans l'âme du juste sous l'empire de la raison. C'est-à-dire que tant que la raison contrôle les passions sont à ce moment-là dans le droit chemin. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une passion qui n'est pas contrôlée par la raison. Exemple, pour expliquer ce que je dis, c'est un étalon sauvage. J'imaginais un étalon, un cheval étalon, qui a une force extraordinaire, une beauté extraordinaire, eh bien, qui est laissé à lui-même, sous prétexte que c'est un étalon. Donc, on ne lui met pas de mort entre les dents, on ne lui met pas de reine pour contrôler ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi, eh bien, il va tout casser. Vous voyez? Il a une force extraordinaire, mais plus il a une force extraordinaire, plus il importe aux propriétaires, aux personnes qui s'occupent de ce cheval fougueux, plus il importe de contrôler cette force. Un étalon dont la force est contrôlée peut faire un travail extraordinaire dans le bien. Un étalon dont la force n'est pas contrôlée peut faire un travail extraordinaire dans le mal et tout casser. Donc, il importe, et c'est notre devoir d'État, de placer la colère et toutes les autres passions dans notre âme sous l'empire de la raison. Parce qu'il y a une tendance qu'on voit assez souvent chez certaines personnes de considérer que la colère dans laquelle ils tombent souvent est toujours une sainte colère. Monsieur l'abbé, c'est une sainte colère contre mes enfants. Bon, mais je me suis attrapé avec ma femme, j'ai frappé ma femme même, mais c'était une sainte colère. Tu parles, c'est pas une sainte colère du tout. Touche pas à une femme, même avec une rose, comme on dit. Et donc là, c'est pas du tout une sainte colère, c'est une colère plus purement et simplement qui n'est pas sainte du tout. Donc saint Thomas a expliqué qu'il existe donc une colère sage, modérée, toujours soumise à la raison, dont l'homme use selon son libre arbitre. C'est de celle-là que la raison se sert comme un instrument. Et donc, la colère sage et modérée correspond à l'étalon qui est sous contrôle parce qu'on a mis un mort et on lui a donné des rênes. Et donc, le chef de la diligence qui contrôle par les rênes la force des chevaux, eh bien, va pouvoir contrôler de façon parfaite ou presque la force de l'étalon et donc utiliser pour tirer la diligence, la caravane. Donc, la force, donc, comme nous avons vu, souffre et attaque. Elle n'a pas besoin de la colère pour souffrir, mais elle y a recours pour attaquer les obstacles. Donc, dans certains cas, oui, il faut se bouger un peu. Une des caractéristiques de la civilisation moderne en France, on le voit très bien, c'est la faiblesse des bons. Les bons qui font plus leur travail. Les bons qui font plus leur travail, tout simplement parce que, je vous l'ai déjà dit très souvent, parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. n'ayant jamais appris à obéir, tous ces hommes qui nous entourent, très souvent, sont incapables d'être des chefs, ne peuvent pas diriger quoi que ce soit, ne peuvent pas être des chefs parce que ce sont devenus des nouilles, si vous voulez, sont devenus des nouilles parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir. Quelqu'un qui n'a jamais appris à obéir comme enfant sera un adulte, deviendra un adulte incapable de commander. La force est-elle une vertu cardinale ? Donc la réponse est positive. Vous le savez, le catéchisme nous enseigne qu'il y a quatre vertus cardinales, dont la force. Les vertus cardinales se distinguent des autres en ce qu'elles possèdent d'une manière éminente l'un des caractères généraux de la vertu. Donc la... La force résiste donc aux maux et aux dangers les plus redoutables de tous, à ceux qui conduisent à la mort, donc elle est bien une vertu cardinale. Donc il suffit, on le voit très bien, de suivre la justice pour s'attirer des ennemis mortels, dit saint Thomas. Alors, la force, article 12, on arrive à la fin de la première question du traité sur la force, question 123, article 12, la force l'emporte-t-elle sur toutes les autres vertus ? Et on verra, saint Thomas explique bien que il y a une hiérarchie dans les vertus cardinales, comme il y a une hiérarchie dans les vertus théologales. Les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, celle qui commande, celle qui est au-dessus, c'est la vertu de charité. C'est la vertu de charité qui est la plus belle de toutes les vertus théologales. Pourquoi ? Parce que la vertu de charité va durer dans le temps. Dans toute l'éternité, il y aura la vertu de charité pour les élus du ciel. Donc il y aura ni la foi, ni l'espérance pour les élus du ciel, parce que la foi et l'espérance seront absolument sans aucun usage, aucune fonction au ciel, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir la foi si on voit l'objet de la foi. On voit Dieu, donc on n'a plus besoin de la foi pour y croire, puisqu'on le voit. On n'a plus besoin d'espérer voir le bon Dieu, puisqu'on le voit au ciel. Donc il n'y a ni foi, ni espérance au ciel. Par contre, il y a la vertu de charité. Donc de même qu'il y a une hiérarchie parmi les vertus théologales, la charité numéro 1, la foi numéro 2, l'espérance numéro 3. De la même façon, il y a une hiérarchie entre les différentes vertus cardinales. Et cette fois-ci, c'est la vertu de prudence, nous dit saint Thomas, qui tient le premier rang parmi les vertus cardinales. Voilà ce qu'il dit. La raison étant notre bien propre, l'homme est un animal raisonnable, la prudence, qui est la perfection même de la raison, tient le premier rang parmi les vertus cardinales. La justice, qui porte au dehors le bien de la raison, en le faisant régner dans toutes les choses humaines, vient après la prudence. Donc numéro 1, prudence, numéro 2, justice. Les deux autres vertus cardinales, la force et la tempérance, qui pour conserver ce bien mettent un frein aux passions, se présentent ensuite. Mais la force doit passer avant la tempérance. Donc il y a un ordre, justice, prudence, tempérance, justice, prudence, force et tempérance. Donc voilà, dit saint Thomas, résumé donc l'ordre des vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Donc les hommes justes et forts, une citation d'Aristote, sont tout particulièrement aimés parce qu'ils sont utiles et dans la guerre et dans la paix. Les soldats sont tout aussi utiles pendant la paix que pendant la guerre. Il ne faut pas croire que les soldats n'ont un rôle que pendant la guerre, c'est une grave erreur. Parce que justement, la guerre, c'est la partie agressive, l'agrédit, mais il faut être sinéré aussi. Donc, le soldat est très utile aussi en période de paix. Civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, il faut des soldats en tant que paix pour empêcher la guerre de revenir. Les hommes justes et forts, donc dit Aristote, sont tout particulièrement aimés parce qu'ils sont utiles et dans la guerre et dans la paix. Nous avons donc vu maintenant cette question 123, qui est une question d'introduction à tout le traité de la vertu de force. Rentrons maintenant un peu dans les détails, avec la question 124, dont je vous rappelle le plan général pour les premières questions du traité, donc la nature de la vertu de force, question 123, son acte principal. La question 124, c'est le martyr. Ensuite, le vice opposé de crainte, la crainte elle-même, question 125, le défaut de crainte, question 126, et l'audace, question 127. Voyons la question 124, qui est importante à propos du martyr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le mot martyr dans un sens beaucoup trop large et qui attribuent la faveur du martyr, si vous voulez, à des gens qui ne sont pas du tout martyrs. Pas du tout martyrs. Je vous donne un exemple. Imaginez un pompier qui est dans un grand feu. Actuellement, il y a des feux épouvantables en Californie. Et il y a peut-être, malheureusement, hélas, des pompiers qui vont mourir dans l'incendie et qui sont brûlés vifs dans l'incendie parce que le feu s'est retourné contre eux alors qu'ils bataillaient avec courage le feu de forêt pour protéger les habitations, protéger les vies humaines. Voilà que le feu se retourne à cause d'un retour de vent, un retour de flamme, et donc le pauvre pompier se retrouve entouré de flammes et meurt grillé vif dans l'incendie. Bon. Ben, il y a des gens qui vont nous dire, monsieur l'abbé, c'est un martyr. Non, c'est pas un martyr. Pas du tout. Le martyr, c'est d'avoir donné sa vie pour la foi catholique. Sinon, c'est pas du martyr, ou c'est un martyr au sens large, c'est pas du tout le sens direct qu'on donne au mot martyr. Il est mort dans l'application de son devoir d'État. Il est mort en pratiquant son devoir d'État. On peut utiliser, je pense, dans un cas comme ça, le mot héroïsme. Oui, c'est un héros parce qu'il a accepté de faire son devoir d'État et il est mort dans la pratique de son devoir d'État. Très bien. C'est tout à son honneur. On va peut-être lui donner même une médaille à titre posthume. Peut-être la Légion d'honneur, je ne sais pas, ou l'équivalent. Aujourd'hui, c'est à la mode de donner la Légion d'honneur à n'importe qui. On peut bien donner la Légion d'honneur à quelqu'un comme ça, très bien. Parce qu'il a bien pratiqué son devoir d'État. Mais ce n'est pas du martyr. Attention. C'est pareil, si un protestant est tué pour sa foi protestante, ce n'est pas un martyr au sens propre, parce qu'il n'a pas suivi le vrai Dieu. Il suit un faux Dieu, le Dieu du protestantisme. Qui n'est pas le vrai Dieu, dans le sens que le protestantisme est une fausse église, dans ce sens-là. Alors voyons un petit peu donc les différentes. L'article de cette question numéro 124, qui est assez courte, il y a quand même 5 articles. Le martyr est-il un acte de vertu, dit saint Thomas. Donc, saint Thomas va d'abord définir évidemment le martyr pour bien expliquer de quoi il parle. Donc il va citer d'abord, comme pour nous aider à comprendre, une des béatitudes, « Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. » Donc rien que dans la définition, dans cette béatitude, Saint Matthieu chapitre 5 verset 10, donc on montre bien que la conséquence du martyr, c'est le royaume des cieux, donc c'est quelque chose de surnaturel. Il appartient donc, dit saint Thomas, que le martyr est un acte de vertu, et qu'il appartient à la vertu de maintenir ferme dans le bien de la raison, c'est-à-dire dans la vérité et dans la justice. Or, le martyr consiste à ne pas s'en écarter malgré les efforts de la persécution. Donc, le martyr, définition du martyr selon saint Thomas, ne pas s'écarter de la vertu de justice malgré les efforts de la persécution pour nous en séparer. Donc, c'est un acte de la vertu de justice. Donc l'acte propre de la vertu, pas seulement la vertu de justice, c'est un acte propre de la vertu de force, excusez-moi. La vertu de force, donc son acte propre, c'est le martyr. Donner sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Par amour de Dieu. Rappelez-vous premier commandement de Dieu, qui est aussi représenté et expliqué par l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme et par-dessus toute chose, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Donc la charité consiste pas simplement à aimer le prochain, mais à aimer le prochain pour l'amour de Dieu. Et donc le policier ou le pompier qui meurt dans un feu, en faisant son devoir d'État, pratique son devoir d'État, s'il a, au moment de sa mort, grillé vif dans l'incendie, offert sa vie en réparation de ses péchés, il fait un acte vertueux, c'est absolument évident, mais c'est pas pour autant un martyr, j'ai déjà expliqué. Alors il y a là une objection à propos des saints innocents. Donc les saints innocents, vous savez, ces enfants qui sont morts, tués par Hérode, qui cherchait à tuer l'enfant Jésus, juste après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il savait par les rois mages que le sauveur du monde était arrivé, le Messie était arrivé, et donc au lieu de s'inquiner, d'aller adorer le Messie, il va essayer de le tuer. Pour arriver à tuer le Messie, il va faire tuer tous les enfants des environs de Bethléem qui ont moins de 2 ans. ce qu'on appelle les saints innocents. Alors, les saints innocents étaient des bébés, donc des enfants, des petits hommes qui n'ont pas encore l'usage de la raison. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Donc saint Thomas va expliquer justement très bien tout cela. Note ici que je suis du père Le Breton, c'est bien expliqué aussi. Les saints innocents donc obtinrent par une pure grâce de Dieu la gloire du martyr que nous n'obtenons qu'avec le concours de notre volonté. Donc le bon Dieu, dans un miracle, puisque c'en est un, le bon Dieu a littéralement donné de façon miraculeuse à ses enfants, en quelque sorte, l'usage de leur volonté pour qu'ils acceptent de mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils sont vraiment martyrs. Donc le sang répandu pour le Christ tient lieu du baptême, ce qu'on appelle le baptême de sang. De même que les mérites du Sauveur communiqués aux enfants par la grâce baptismale les rendent dignes de la gloire éternelle, de même les mérites de son martyr ont acquis la palme glorieuse à ceux dont le sang fut répandu à la place du sien. Là, ça vient de points de doctrine très importants, ce qu'on appelle le baptême de sang, le baptême de désir, de points très importants. Il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême d'eau, mais dans certains cas, pour ceux qui, sans faute de leur part, n'ont jamais pu recevoir le baptême d'eau, il peut y avoir, la porte du ciel va s'ouvrir par un baptême, dans certains cas, un baptême de désir ou un baptême de sang. Donc faites très attention, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, de ne pas vous laisser avoir par une secte qui prétend que l'Église n'a jamais enseigné le baptême de désir et le baptême de sang. Il suffit d'ouvrir le catéchisme du Concile de Trente, c'est dans toutes lettres dedans. Donc, le baptême de sang, le martyr, est un acte de charité parfaite. L'acte de charité parfaite efface tous les péchés. Donc, un païen, plus exactement un catéchumène, par exemple, qui n'est pas encore baptisé qu'un baptême d'eau, qui meurt en donnant sa vie pour le Christ, meurt dans un acte de charité parfaite. L'acte de charité parfaite nous enseigne le catéchisme, efface tous les péchés, y compris le péché originel, pour ceux qui l'ont. Puisque les baptisés, en tant qu'enfants de Dieu, n'ont plus le péché originel, puisqu'il a été ôté par le baptême. C'est la même chose avec le désir, soit explicite, soit implicite. Donc, il est possible, dans certains cas, pour quelqu'un d'avoir un baptême de désir implicite, avec un grand désir du baptême, entre autres dans les milieux dans lesquels on demande un certain temps d'attente avant le baptême, on rappelle en Afrique, en Afrique centrale entre autres, il n'était pas question de baptiser un monsieur qui venait par exemple à la mission, qui demandait le baptême comme ça. Il fallait d'abord bien le catéchiser, et en général il y avait une attente de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'on demandait évidemment à ce païen qui voulait se convertir d'abord de changer complètement de vie. Il y a des problèmes quand même énormes, entre autres à cause de la polygamie. Et donc il fallait que cette personne change complètement sa façon de vivre, renvoie toutes ses femmes illégitimes, n'en garde qu'une seule s'il souhaitait être marié, et seulement pour se marier légitimement, avec une femme et pas 3 ou 4. Donc ces gens-là avaient un baptême de désir. Et souvent ils venaient voir le missionnaire en disant « Mais vous faites attendre 2 ans avant le baptême, et qu'est-ce qui va se passer si je meurs pendant cette période de 2 ans? Je vais où ?» Et le missionnaire répondait avec raison « Eh bien, vous avez un grand désir du baptême, vivez comme un catholique, commencez à pratiquer les mœurs catholiques, et vous avez déjà en votre cœur le désir du baptême, vous avez un baptême de désir, le baptême de désir va effacer le péché originel et vous donner accès au ciel. » Deuxième article. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai oublié. Donc, faites très attention donc à cette secte, la secte des Finéistes, donc qui suivent le père Finet, un prêtre américain qui a été justement condamné à cause de cela, excommunié par le pape Pie XII. Je crois que c'était en 1953. Il a été excommunié par le pape Pie XII précisément parce qu'il niait le baptême de sang et de désir. Et ne croyez pas un traître mot des finéistes qui vous disent le pape Pie XII a condamné le père Finet parce qu'il enseignait hors de l'Église catholique pas de salut. Ce serait une épouvantable hérésie de la part de Pie XII, puisque hors de l'Église catholique il n'y a pas de salut, c'est un dogme de foi. C'est évident que Pie XII en tant que pape croyait au dogme de foi, hors de l'Église catholique il n'y a pas de salut. Mais il expliquait que dans certains cas, le baptême d'eau qui n'a pas pu être recevoir par quelqu'un qui est dans un état de bonne foi, peut être remplacé, tant qu'il est justement dans cette bonne foi, par un baptême de sang ou un baptême de désir. Article 2. Le martyr est-il un acte de la vertu de force ? Donc, le martyr, la réponse est positive. Le martyr est un acte de la vertu de force. Pourquoi ? Parce que le martyr où l'homme s'attache à la vertu d'une manière inébranlable, en face de la mort même, sans que le péril imminent qui le menace puisse lui faire abandonner la vérité et la justice, c'est un acte de force. Le martyr donc a pour cause la charité qui commande à cet acte de force. Donc c'est un acte de charité parfaite qui efface tous les péchés. Article 3. Le martyr est-il un acte de la plus haute perfection ? Donc cette action, dit saint Thomas, n'est louable que par le bien qu'on s'y propose et qui consiste en un acte de foi, de charité. Donc le martyr est la personne qui donne sa vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, même si elle n'est pas baptisée. N'oublions pas que une grande proportion des premiers martyrs de l'Église catholique, donc pendant les grandes persécutions de 67 jusqu'à 313, une grande proportion des martyrs n'étaient pas baptisés. Ils étaient catéchumènes. À l'époque, on ne baptisait pas encore les enfants, on baptisait les adultes. Et donc, beaucoup de ces martyrs qui sont morts dans des circonstances, dans des souffrances épouvantables, n'étaient pas baptisés avec un baptême d'eau. Ils sont morts avec un baptême de sang, le martyr, et ils sont au ciel. Ils sont beaucoup sont canonisés par l'Église. Je pense par exemple à Sainte Émérancienne, qui était la sœur de lait de Sainte Agnès, qui fêtait, je crois, le 13 janvier. Eh bien, Sainte Émérancienne est morte, baptisée dans son propre sang, dit le Bréviaire. Il y a beaucoup de martyrs qui étaient dans ce cas-là. Donc, envisagé dans le motif qui le détermine, c'est-à-dire dans la charité, le martyr est donc un acte de la plus haute perfection. Le martyr est le signe de la plus parfaite charité et le plus parfait de tous les actes humains. Nul ne saurait témoigner une charité plus grande qu'en donnant sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand acte que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit notre Seigneur. Alors, la mort est-elle essentielle au martyr ? Donc, souffrir le martyr, dit saint Thomas, article 4 de la question 124, souffrir le martyr, c'est rendre témoignage de sa foi, en montrant par action son mépris des choses présentes et son amour pour les biens invisibles et d'autres mondes. Donc, il faut, pour qu'il martyre, réel et complet, une mort soufferte pour Jésus-Christ. Soit directement, soit indirectement. Il y a des gens qui sont canonisés comme martyrs, qui ne sont pas morts directement pendant l'action de la persécution, mais qui sont morts, par exemple, quelques mois après, à cause des conséquences des souffrances terribles qu'ils ont souffertes pendant leur persécution. Voilà la note qui est mise ici dans le livre par le père Le Breton. On n'est pas proprement martyr pour avoir supporté la prison, l'exil, la perte de ses biens, à moins que la mort n'en soit résultée, comme l'histoire le rapporte du pape Saint Marcel, qui mourut dans sa prison par suite de ses blessures. Les expressions des pères, d'où l'on voudrait conclure qu'il peut y avoir martyr sans qu'on souffre la mort, sont dites par analogie. Cependant, il y a des actions qui, pour n'être pas un vrai martyr devant les hommes, suffisent aux yeux de Dieu pour en mériter des récompenses. Le martyr consiste à subir volontairement la mort plutôt que de trahir sa foi. Un tel acte est méritoire à partir du premier moment où les tribulations commencent. Donc c'est la distinction qu'il faut faire entre le martyr et le confesseur de la foi. Le confesseur, c'est celui qui a souffert pour la foi, le martyr, celui qui est mort pour la foi. Bon. Et donc, tous les martyrs sont des confesseurs, mais tous les confesseurs ne sont pas des martyrs. On avance avec l'article 5 de la question numéro 124. Ne peut-on souffrir le martyr que pour la foi seule ? Saint Thomas reprend la béatitude de saint Matthieu. Heureux celui qui souffre persécution pour la justice. Et il dit, de cela, il résulte que l'on peut être martyr pour la justice, qui comprend avec la foi toutes les autres vertus. Donc, on rend témoignage aux vérités de la foi, non seulement à les croyants de cœur, mais encore à les confessants par ses paroles et par ses actes. Donc, toutes les vertus peuvent être la cause du martyr. Saint Jean-Baptiste est compté dans l'Église au nombre des martyrs, parce qu'il a souffert la mort pour soutenir les droits de la fidélité conjugale. Il reprochait à Hérode d'être en concubinage avec la femme de son frère, Philippe. Donc, souffrir par amour de Jésus-Christ pour accomplir une bonne œuvre ou pour éviter un péché, refuser de mentir parce que le mensonge est opposé à la loi divine, sont des actes qui rentrent dans la profession de la foi et qui peuvent donner lieu à la gloire du martyr. Le bien humain lui-même, rapporté à Dieu, peut devenir divin comme tel en être une cause. On peut expliquer avec un exemple, c'est l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, strictement parlant, n'est pas une martyre. Elle, c'est un confesseur de la foi. Une confesseur de la foi, elle est morte en confessant la foi catholique, c'est absolument évident, mais elle n'a pas été persécutée en tant que telle parce qu'elle était catholique. Donc elle n'est pas strictement parlant martyre, mais elle est confesseur de la foi. Nous avons donc terminé avec cette question numéro 124, donc la première conséquence directe du don de force, le martyr. Ensuite, saint Thomas va parler des vices opposés à la force, et d'abord du vice de crainte. Donc, il va parler à la fois de ceux qui manquent de vertu de force, la crainte, et ceux qui ont trop de vertu de force, puisque je vous ai expliqué que la vertu cardinale se situe entre deux extrêmes, et celui qui a trop de vertu de force, c'est le défaut d'audace. On va voir tout ça. J'ai commencé un petit peu, peut-être de faire au moins cette question numéro 125. Donc, des vices opposés à la force, et d'abord la crainte. La crainte est-elle un péché, dit saint Thomas d'Aquin. Et il répond avec une phrase de saint Matthieu, au chapitre 10, « Ne craignez pas, dit notre Seigneur, ne craignez pas ceux qui ne peuvent tuer que le corps. » Donc la bonté de nos actes, dit saint Thomas, consiste dans la conformité à la raison. La crainte, donc, qui fait redouter et fuir ce que la raison prescrit de supporter, afin de ne pas perdre un bien d'un ordre supérieur, est un péché. Donc, mais la crainte qui porte à éviter ce que la raison nous apprend à fuir n'est ni désordonnée ni coupable. Une bonne crainte, si vous voulez, une sainte crainte. N'oublions pas que la crainte de Dieu est un don du Saint-Esprit et c'est même le début de la sagesse. Donc, une crainte de Dieu qui amène au désespoir, qui amène au découragement, est un péché. Par contre, la saine crainte de Dieu qui nous fait éviter le péché est quelque chose de bon. Deuxième article de la question 125. Le péché de la crainte est-il opposé à la force? De même, dit saint Thomas, qu'il y a dans tous les péchés un amour désordonné qui lui produit, pour sa volonté propre, il se trouve aussi une crainte désordonnée. Lorsque la crainte n'est pas contrôlée par la raison, comme toutes les vertus doivent l'être, eh bien, lorsque la crainte n'est plus contrôlée par la raison, à ce moment-là, ça peut devenir un péché. Pourquoi? Parce que la crainte ou la timidité, si vous voulez, sont opposées à la vertu de force. Mourir, donc, pour une phrase d'Aristote. Mourir pour se dérober à l'indigence, à la servitude, à une souffrance quelle qu'elle soit, ce n'est pas une preuve de force, disait très bien Aristote, c'est plutôt l'indice de la faiblesse et de la timidité. Il n'appartient qu'à la mollesse de fuir les choses laborieuses. Donc, attention à ces choses-là. Il importe encore de bien comprendre la nécessité de soumettre la crainte de Dieu à la vertu de foi, à la raison. La raison éclairée par la foi. C'est pour cela que les conséquences de ce que vient de dire saint Thomas sur le suicide est importante. Quelqu'un qui se suicide en toute connaissance de cause, bien sûr, pour se dérober à une souffrance, pour se dérober à une indigence très importante, eh bien, commet une faute grave, parce que, justement, il refuse de réguler cette crainte par la raison éclairée par la foi. Et donc, il tombe dans le décourageant, et malheureusement, il va se supprimer par le suicide. Article 3, la crainte est-elle un péché mortel ? La crainte est-elle un péché mortel ? Alors, saint Thomas va évidemment répondre en faisant certaines distinctions. N'oublions pas les conditions du péché mortel. Il faut matière grave, connaissance et consentement. La chose que je veux faire est interdite par la loi du bon Dieu sous peine de péché mortel. C'est grave, ça fait rien, je le fais quand même. Matière grave, pleine connaissance, plein consentement. Donc la crainte, dit saint Thomas, est un péché à raison même du désordre qu'elle renferme. C'est-à-dire, est-ce qu'elle fuit, c'est ce que la raison nous défend de fuir. Donc la crainte doit être sous le contrôle de la volonté. Ainsi, agit-elle sur la sensibilité seule, sans obtenir le consentement de la volonté, elle ne va pas au-delà du péché véniel. S'empare-t-elle de la volonté de telle sorte que celle-ci, agissant en délibération contre les ordres de la raison, soit disposée à transgresser un précepte de la loi divine, est un péché mortel. Au-delà, elle est un péché véniel. Donc la crainte est en général un péché véniel, sauf si nous sommes disposés, à cause de la crainte, à transgresser un précepte de la loi divine. En cas de persécution trop forte, dans ce cas-là, il y a collaboration, si vous voulez, à acceptation du fait que on accepte le fait qu'on accepte de pécher mortellement, d'aller mortellement contre un précepte de la loi divine, et il y a péché mortel. Donc, voir au cas par cas. Donc, en conclusion de cet article, la crainte qui porte sur une œuvre conseillée par la perfection ne constitue aucun péché dès qu'elle est justifiée par une cause raisonnée, raisonnable. Article 4 de la question numéro 125. La crainte excuse-t-elle du péché ? La crainte devient un péché par son opposition aux ordres de la raison. C'est-à-dire, lorsque la crainte n'est plus contrôlée par la raison, c'est là où interviennent les difficultés. Les maux de l'âme, les péchés, étant plus à craindre que les maux du corps, et ceci plus que la perte des biens extérieurs, l'homme qui, pour se soustraire aux souffrances du corps, aux blessures, à la mort, ou à une perte d'argent, consent à encourir le mal de son âme, n'est pas exempt de péché. Craignez ceux qui peuvent faire du mal à l'âme, et ne craignez pas au moins ceux qui peuvent attaquer les corps. Donc, nous devons convenir donc, dit saint Thomas, que les fautes commises sous l'empire de la crainte perdent de leur gravité, elles sont moins volontaires. Les actes produits sous une sorte de nécessité imposée par la crainte doivent être considérés comme mêlés de volontaires et d'involontaires. Donc attention à ça. Si les fautes donc sont commises sous l'empire de la crainte perdent leur gravité, elles sont moins volontaires, c'est-à-dire que la crainte va diminuer le volontaire. Et dans certains cas, supprimer complètement le volontaire. La crainte peut donc être un principe d'involontaire. Nous avons donc bien commencé ce traité de la force. Je vous l'ai déjà dit, c'est un traité plus facile, donc on va pouvoir aller plus vite. Et nous attaquerons, si Dieu veut, vendredi prochain, la question 126 du défaut de crainte ou de la témérité. Puis ensuite l'audace, question 127, puis les différentes parties de la force. J'ai oublié de vous dire que pour toutes ces trois traités en fait qui vont arriver maintenant, donc la force, la tempérance et les états de perfection, il n'y a rien dans le polycopier. Donc vous reprendrez le polycopier avec le début de la tertia pars, surtout sur la béatitude et tout ce qui suit la béatitude et plutôt sur la vie directement de notre Seigneur Jésus-Christ et les circonstances de l'incarnation. C'est là où je reprends beaucoup de textes de saint Thomas sur le polycopier. Donc pour les questions, les articles des trois traités de la force de la tempérance et des états de perfection, je vais directement avec le texte de saint Thomas, mais qui n'est pas dans le Polycopie. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.